commence par répondre à une série de questions du cours précédent. Le cours précédent est évidemment assez éloigné, mais ça ne fait rien. Comme notre corps n'est pas loin de nous, l'expérience demeure immédiate.
C'est une question qui concerne plutôt l'intentionnalité que vous aviez développée au cours sur la Trinité, mais elle est beaucoup plus philosophique que théologique. Au dernier cours, vous avez distingué l'intentionnalité de la connaissance de celle de l'affectivité, en précisant que chaque tempérament les possède toutes les deux selon une proportion différente. Vous avez ajouté que la sagesse unit les deux intentionnalités. Lorsqu'on cherche la sagesse, peut-on discerner quelle intentionnalité il faut s'efforcer de faire grandir ?
Les deux.
Voilà. Je suppose que cela dépend des étapes de la croissance de la personne humaine et de l'enfant de Dieu en nous. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ?
L'éducation chrétienne, puisque on fait allusion à ça, l'éducation chrétienne consiste à être toujours relatif au Christ. Tout regarder dans la lumière du Christ. Or, seul en Jésus, l'équilibre entre l'intentionnalité de l'intelligence et celle du cœur sont dans une harmonie parfaite. Jésus, à la différence de tous les autres hommes, respecte infiniment la sagesse. Il nous donne cette sagesse et nous la donne d'abord auprès de Marie, auprès de Joseph, dans une famille. Rappelez-vous ça, parce que aujourd'hui, dans notre monde, c'est essentiel. Si on quitte la famille, on ne comprend plus rien à l'homme. Dites-vous bien ça. Si on quitte la famille, on ne comprend plus rien à l'homme. On regardera l'homme ou comme un animal supérieur, ou on regardera l'homme comme uniquement un esclave au service d'un potentat. Il n'y aura plus distinction entre nature et personne. Or, la distinction entre nature et personne me semble absolument indispensable et très à l'ordre du jour. Alors, comprenons bien que l'homme né dans une famille. Donc, son origine est premièrement dans la famille. Si on touche la famille, on touche tout l'équilibre de l'homme. Pour cela, avoir des conceptions de la famille qui sont fausses, ont des répercussions énormes sur l'âme. Parce que Dieu a voulu, mais Dieu, ne parlons pas de Dieu, parlons tout simplement parce que l'homme commence son éducation dans la famille. Point de départ. Et c'est dans cette première éducation que l'homme découvre qu'il y a en lui une force particulière qu'on appelle l'âme. Le grand danger de notre époque, c'est qu'on ne veut plus parler de l'âme. On ne sait plus ce que c'est. Dans le progrès scientifique, dans le progrès du monde d'aujourd'hui, il ne voit pas que ce progrès est un progrès fou qui fait que on ne voit plus la différence entre l'animal et l'homme. Donc, toute l'éducation de l'homme se fait comme un dressage. Parce que, regardez comment on éduque un animal. On ne l'éduque pas, on le dresse. Différence entre éducation et dressage. Très important aujourd'hui. L'éducation, c'est éveiller une âme. Le dressage, c'est dominer un corps. Alors on doit y revenir tout le temps, ça. Une loi pour l'éducation humaine est vraie quand elle respecte la finalité de l'homme. Respecter la finalité de l'homme, c'est nécessairement toucher sa finalité spirituelle de son âme. Parce que mon corps n'a pas de finalité. Finalité propre. Il a une finalité en fonction de mon âme. En fonction de mon âme, mon corps ne doit pas être un obstacle. Mais si mon corps est premier, il devient un obstacle à l'éducation de mon âme.
Père, dans l'éveil, enfin, vous dites que l'éducation, c'est l'éveil en premier lieu de l'âme.
Oui.
Dans cet éveil de l'âme, est-ce qu'il y a un ordre entre l'intentionnalité de la connaissance et celle affective? Ou est-ce que ça va de pair?
Ça va ensemble. Mais il faut regarder quel est le premier. Il faut regarder que l'intentionnalité de l'amour commande l'éveil de l'intelligence.
Comment cela?
Comment ça? Alors, il y a un exemple classique que je vous ai donné toujours, c'est l'exemple qui s'est passé en Israël. Pour moi, c'est un exemple type. Quand Israël a été pris par les Juifs d'Amérique, ils ont voulu tout réformer en présence d'un État jeune qui se formait. Alors, il y avait une idéologie très nette qui était au point de départ de cette éducation. Et cette éducation consistait à mettre l'enfant assez loin de sa mère, 2 heures par jour. Résultant, des infirmières diplômées. Et alors on a vu au bout de quelques années que l'éveil de l'intelligence ne se faisait pas aussi vite. Alors c'était terrible parce qu'Israël a un sens de l'intelligence qui est très poussé. Alors ils ont changé. Donc ça c'est un exemple qui est typique. L'éveil de l'intelligence se fait à partir d'un amour. Et cet amour premier, c'est l'amour de la mère pour l'enfant. Et personne ne peut remplacer l'amour de la mère pour l'enfant. Personne. On ne peut pas le fabriquer, celui-là. Comme on ne peut pas fabriquer la procréation. Et la nature est trop forte. On ne peut pas lutter sur la nature en tant que nous regardons le point de vue de la génération. Alors, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaie de lutter contre la nature, arriver à une procréation qui soit autre que celle voulue par Dieu. Mais il y a une lutte farouche contre la nature. Ce n'est pas étonnant, parce que la nature, elle nous est donnée. Si elle nous est donnée, elle nous est donnée par qui ? Par qui elle nous est donnée ? On remarque le don, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous l'ait donné. Alors, la nature, en elle-même, est ordonnée vers Dieu. Alors, c'est ça qui est insupportable. Qu'on a une nature religieuse. Notre nature est religieuse. Notre personne peut très bien ne pas être religieuse, tandis que la nature l'est. Il ne faut pas le supprimer. Et alors on voudrait beaucoup. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas supprimer, c'est l'ordre premier de l'amour comparativement à l'intentionnalité de l'intelligence. Si on supprime cet ordre-là, l'éveil de l'intelligence se fait beaucoup plus tard. Donc, il y a génétiquement, dans l'ordre génétique, un primat de l'intention affective. On le retrouve tout le temps. Dans une communauté religieuse, une petite communauté religieuse, le primat de l'intentionnalité affective permet que cette communauté existe. S'il n'y a plus ce primat religieux, affectif, il n'y a plus de communauté. Il y a des individus. L'individu peut exister avec le développement de l'intelligence. Mais pour qu'il y ait communauté, il faut ce développement de l'affectivité. Et alors, il y a comme ça quelques exemples très typiques qui montrent ce primat de l'intentionnalité affective. Ça, c'est très important. Parce que je ne peux pas le changer, ça. C'est la nature. La nature, c'est ce qu'il y a de premier. Hein. La phusis, c'est ce qu'il y a de premier, la nature. La nature, vous êtes homme ou femme. On n'en peut rien. On n'a pas commandé la chose. C'est la nature. Idéologiquement, la personne, la femme voudrait être comme l'homme et l'homme comme la femme. Mais ils ne peuvent pas l'être, parce qu'il y a le fondement naturel. Vous voyez, alors ça c'est intéressant, c'est tout. C'est tout. Vous voyez, on retrouve toujours le problème de la nature et de la personne. Qu'est-ce qui est premier? Ce qui est premier génétiquement, c'est la nature. L'enfant ne naît pas comme une personne. Il naît comme un petit être qui est une promesse de vie. Donc, il y a quelque chose de donné, le donné naturel, qui est premier. Et ça, c'est capital. Or, de fait, avec ces philosophies du primat subjectif poussé à l'extrême, le primat naturel disparaît. Et on n'a plus que le primat personnel. On en est là, aujourd'hui. Ce qui fait que la philosophie de la nature devient nécessaire. Et on devrait commencer par la philosophie de la nature, la première année philosophique. Commencer tout le temps, tout de suite par la métaphysique, c'est pas tout à fait juste. Il faut commencer par la philosophie de la nature, découvrir le point de vue personnel et le lien entre nature et personne, c'est la métaphysique.
Vous avez montré le rôle indispensable de l'amitié dans l'éducation du corps et l'acquisition d'une sensibilité pleinement humaine. On voudrait savoir quelle est la place du travail manuel et du sport dans la formation et la croissance de la personne humaine.
C'est justement... Quand on met ce primat de la nature par rapport à la personne, primat génétique, hein, pas primat du côté de la faim, mais primat génétique, on voit que nous devons être très attentifs à la croissance physique, donc l'éducation physique naturelle. Petit enfant, en respectant ces lois de la croissance. Et dans ces lois de la croissance, il y a justement cette primauté d'une philosophie de l'art. On est d'abord des artistes. Quant à son corps, croissance, l'éducation croissance, implique ce respect à l'égard du corps. Et quand on voit des personnes où il n'y a pas eu ce respect à l'égard du corps, on voit que ça ne peut pas se rattraper, ça. C'est un respect fondamental que la mère a. Et quand, justement, à la place de la mère, on met quelqu'un qui remplace la mère parce que la mère n'a pas existé, du moins n'a pas existé comme mère, elle n'a fait qu'engendrer, elle n'a pas éduqué. On voit qu'il y a toujours quelque chose n'est pas tout à fait juste. C'est mieux que rien. L'adoption est bien supérieure au fait de laisser l'enfant au bien commun. Donc, le pendu de adopter, c'est une miséricorde très forte, très grande, qui elle aussi ne peut pas être remplacée. Adopter par une famille ou adopter par une jeune fille séparée, parce que les hommes, c'est très difficile qu'ils adoptent quand ils sont seuls. Mais la première éducation, elle est féminine, elle est maternelle. Et parce qu'elle est maternelle, d'une certaine façon, elle ne s'acquiert pas. Elle est donnée naturellement. On peut essayer, mais au fond, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose, c'est très curieux, il y a quelque chose qui est non naturel. Tout à fait premier. On n'arrive pas à faire que l'éducation puisse remplacer la maternité. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important de bien comprendre ça. Parce qu'on tend aujourd'hui à vouloir croire qu'on peut le remplacer. Et on ne peut pas. Parce que c'est l'éducation première, elle est du côté de la nature. Et donc, c'est quelque chose de donné. Donné avec la mère. On n'a pas choisi d'avoir telle mère. On n'a pas choisi. On a toujours eu naturellement, la meilleure des mères. Naturellement. On n'a pas choisi. Heureusement. Elle nous a été donnée. Et quand ceci n'a pas été respecté, on sait qu'il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Mais ce quelque chose qui va manquer par l'adoption peut être quelque chose de très miséricordieux qui peut aller très loin. Il faut bien reconnaître ces mouvements d'adoption, combien c'est nécessaire dans notre monde. Des maternités qui ont été violées, quand la fécondité a été à partir d'une faute, à partir d'une violence, l'adoption est d'autant plus importante. C'est qu'au fond, point de départ est toujours très important pour qu'il soit naturel. Les vraies mères le sentent très fort. Et je me souviens très bien la réflexion de ma mère par rapport à ces jeunes mamans qui attendaient leur enfant et qui continuer leur vie comme si rien n'était. De jeunes filles, rien n'est vu. Voyage. Et ma mère disait tout le temps, mais on attend un enfant. Et attendre un enfant, c'est toute la nature qui qui doit être prise par cette chose qui, pour la nature, c'est une finalité. Mettre au monde un enfant, c'est quelque chose de très, très grand. Et quelque chose qu'on doit respecter comme étant une exigence divine. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas l'homme. Il n'aurait pas fait ça. C'est pas l'homme. C'est Dieu. Donc c'est une exigence divine. Naturelle et divine, et qui fait que ça nous échappe, c'est plus que nous. C'est là où les pays moins civilisés, mais plus naturels, ont plus de respect vis-à-vis de la naissance que des pays très civilisés, qui au fond ne comprennent plus très bien ce que c'est que le point de vue naturel. La nature. Et croient que ça peut se modifier. Alors que, non, je ne peux pas changer ça. Et ça, mais c'est très très important au point de vue du mariage. La philosophie du mariage au point de vue philosophique, comme au point de vue chrétien. Il faut le rappeler, ça, aujourd'hui. Et il faut défendre ces jeunes mamans qui attendent leur enfant et qui devraient attendre leur enfant et d'une façon, dans un certain recueillement, dans une certaine... Toute la nature est tendue vers ça. Elle est pour ça. Et elle doit être, par le fait même, toujours capable de recevoir l'enfant. Et ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de naturel. Et ça, c'est très, très important. Les pays moins civilisés, plus naturels, ont ce sens-là. Parce qu'en Afrique, maman qui attend un enfant, elle en apprend quelquefois beaucoup à quelqu'un qui se met au régime actuel de la civilisation actuelle. Bon.
Mon père, est-ce que vous pouvez revenir sur la place du travail manuel ?
Alors, travail manuel. Le travail manuel, c'est le premier moment de l'activité du facere. L'homme qui fait quelque chose et qui domine la matière. Donc, ceci est naturel. Il faut que ce soit naturel et réfléchi par l'homme. C'est l'éclosion de quelque chose de proprement humain et de profondément humain, l'éclosion du facere, du fer. L'homme dépasse la nature. Il est capable de la modifier. Et la modifie par son activité du facere. Donc c'est la première éducation. La première éducation, elle est du côté du facere, ce qu'on oublie beaucoup trop. Vous voyez, dans notre monde. Parce que regardez le facere d'un enfant, par exemple, un foyer qui vit à Paris, dans le septième étage. L'enfant ne met ses pieds sur la terre qu'à travers le septième étage. Le terrain pour l'éducation de l'enfant est limité à la chambre. Il ne sort pas. Il n'est pas avec la nature. Le facturé, c'est le premier contact avec la nature. Alors, ce premier contact avec la nature est capital. C'est très bien, c'est. On est dans une conception qui est... C'est difficile à changer ça. Les immeubles aujourd'hui ne sont pas faits pour la première éducation. Et on ne peut pas le remplacer, ça. La première éducation, elle est première. C'est l'enfant qui gratte à terre. C'est l'enfant qui s'intéresse à faire quelque chose avec du bout de bois et de la terre et du sable. Il y a là le facturé. On voit ça d'une façon très nette dans les plages. Où l'enfant n'aime pas tellement se baigner dans l'eau. C'est vite fait, il le fait parce que sa mère et son père lui demandent, mais dès qu'il peut, il s'en va. Il s'amuse beaucoup plus à fabriquer sa petite maison, son petit pays, avec le sable. Il construit. C'est un petit architecte. Il aime ça. Il fait ça naturellement. C'est extrêmement intéressant à voir, ça. Et on doit s'intéresser à ça. On doit le prendre au sérieux, se facturer, et développer se facturer à partir du sable, à partir de quelque chose qui contacte avec la terre. L'enfant qui n'a pas de contact avec la terre, avec le sable, ben il lui manque quelque chose. Humainement, tu es terre et tu es sorti de la terre. Notre corps doit retourner sur la terre en le dominant, puisqu'il le fait. Il fait un village, il fait une maison, il fait tout ce qu'il peut faire. Il faut développer cet instinct d'invention. Et alors, si on l'arrête, on fait du refoulement. Et c'est terrible. Alors que si on le développe, on permet à l'enfant de développer. Et très souvent, l'enfant qui est né dans une ville, qui est né au septième étage, au huitième étage, et il ne peut pas. Il ne peut pas quand même faire son plancher. Le plancher, il ne bouge pas. Il n'y a pas de sable. Alors, il n'y a pas d'invention. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des coques de papier. Et c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Il y a quelque chose qui lui manque, ce contact avec la terre. C'est, je crois, ça qu'il faut sauvegarder dans la première éducation. Le facturer, le contact avec la terre. Et c'est à partir de ce contact avec la terre que va naître l'éthique. Le point de vue moral. Quand le point de vue moral ne naît pas du facturé, il devient idéologique. On a des conscients. Quand c'est la primauté du moral, et c'est l'oubli que la primauté, c'est le facturé. faire quelque chose avec la matière, faire quelque chose avec le bois, faire quelque chose avec la pierre, faire quelque chose, réaliser quelque chose, un petit monde, prolonger son monde. Ça, c'est très important pour l'éducation de l'imagination. Parce que tout de suite, vous donnez à l'imagination une possibilité de faire quelque chose. Autrement, vous ne le faites jamais et vous mettez en premier lieu le moral. Ça devient artificiel. Elle ne naît pas du fatuéré. C'est très important, ça. Et ça ressent dans toute la vie, ça. Vous avez une notion de la morale qui est artificielle. Alors qu'autrement, vous avez une notion de la morale qui est réelle, qui est tout simplement l'homme doit faire attention à l'autre. Il doit faire attention à l'autre dans son fatuéré. Parce que c'est la première éducation morale, c'est de faire attention à l'autre. L'autre, c'est pas moi. Et donc, l'autre, c'est pas moi. Je le respecte. Je ne le connais pas bien. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais il est autre. Et là, alors, on a le point de vue, le point de départ de la morale, c'est le respect du prochain, respect de l'autre. Et grâce au respect de l'autre, on remonte jusqu'au respect de Dieu. Grâce au respect de l'autre, on comprend la justice, puis l'amitié.
On part à une autre question. Dans son livre « Amour et responsabilité », le pape Jean-Paul II propose une analyse de la masculinité et de la féminité comme des éléments constitutifs du sujet humain, ne se réduisant pas à la simple morphologie corporelle. Cette masculinité et féminité s'ouvrent à la dimension psychologique et connaît un plein accomplissement dans la maternité et la paternité. Dans l'étude de la personne humaine, comment devons-nous aborder cette question? En raison de l'union de l'âme et du corps, peut-on parler d'une âme féminine et d'une âme masculine?
Non. Oui. Pas toujours par le point de vue du fatuéré. Et ce que l'homme peut faire, transformer, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de matière commune entre le petit garçon et la petite fille. Quand il y a ça, il y a une matière commune. On les voit s'amuser ensemble. Et ils s'amusent ensemble d'abord. Ce qu'on a dans une famille. Dans une famille, petit garçon, petite fille, mais ils vivent ensemble. Il y a une vie ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'avant, d'antérieur à l'aspect féminité et masculinité. Ce n'est pas premier, cette distinction-là. Vous voyez, la nature est antérieure. Et cette nature, elle pousse par le fatuéré. D'abord, cette dimension commune. S'il n'y a pas cette dimension commune, elle ne se retrouvera jamais dans la vie. C'est l'avantage de la famille et de la famille nombreuse. C'est que dans une famille nombreuse, il y a eu échange entre garçons et filles qui s'est fait normalement, naturellement, et qui est le fond. Puis, petit à petit, il y a conscience de la différence. Mais cette conscience de la différence n'est pas première. Et quand on veut justement qu'elle soit première, il y a une exagération de la féminité et de la masculinité, alors que non, au point de départ, l'enfant, c'est l'enfant. Et ça, c'était très très important. Le conseil qu'on doit donner, du reste, pour les foyers, pour les jeunes foyers. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Hein. Quand on fait toute une séparation entre eux, c'est pas bien. Parce que c'est pas la nature humaine. Au point de départ, c'est la nature humaine. Elle est féminine et masculine. Ce n'est pas une distinction de l'âme. C'est une distinction qui provient du corps. Et l'âme est la même. Il n'y a pas une âme féminine et une âme masculine. Tout ça, c'est de la logomagie.
Mon père, pourquoi est-ce qu'il y a un exercice différent ? Est-ce que le corps suffit à expliquer, à rendre compte de l'exercice différent ?
Mais c'est évident. Le corps est substantiel. C'est toujours substantiel. Mais le corps humain avant d'être un corps sexué. C'est toujours la même chose, c'est qu'on veut que le point de vue sexuel soit substantiel. Et le point de vue sexuel n'est pas substantiel. Tu vois, il peut l'être dans l'exercice, mais il ne forme pas un individu autre. Il y a d'abord profondément la nature humaine, âme et corps. J'ai la petite fille, j'ai le petit garçon, âme et corps. J'éduque. Le petit garçon et la petite fille, tous les deux, à découvrir progressivement leur âme. Et cette découverte de l'âme chez le gosse, chez l'enfant, le garçon, chez la fille, c'est la même découverte. C'est la découverte d'une âme. L'âme n'est pas sexuée. L'âme, elle est l'âme humaine. Alors, puisqu'elle est reçue, l'âme est reçue dans le corps, et que le corps est masculin ou féminin, nécessairement, dans l'exercice, dans le développement de l'âme, il y aura une différence. Mais c'est dans le développement. Et cette différence n'est pas une différence, vous voyez, qui atteint la nature des choses. C'est une différence qui atteint l'exercice de la production, de la fécondité. La sexualité est ordonnée tout entière à la fécondité. Et non pas au développement de l'individu. C'est quand même très très marqué ça. C'est le développement du point de vue sexuel. Alors là, très bien, il y a deux développements différents. Et on a une diversité qui se fait sentir plus ou moins, vous voyez, suivant les cultures. Et quand les cultures sont plus naturelles, la différence s'accentue moins. Dans les cultures beaucoup plus intellectuelles, la différence se met beaucoup plus. Tout de suite par l'habillement, par la manière. Vous voyez, on fait tout pour distinguer. On met la petite fille, le petit garçon, oui. Tu es un petit garçon, une petite fille, fais attention. Oui, alors on accentue ça. Et ce n'est pas naturel. Alors là, c'est au fond très assez délicat, cette chose-là. Mais je crois que c'est important. Vous voyez, après, dans le développement intellectuel, on voit très bien que le développement intellectuel, garçon, n'est pas de la même façon et est différent. Sûrement, faire une éducation commune. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux dans notre monde. C'est qu'à la fois, on exagère sur l'éducation commune de garçons et de filles, plus de différence. Même collège, même examen, tout. Vous voyez, même capacité. Et en même temps, on insiste énormément sur le sexe. C'est contradictoire. Vous voyez ? Il y a une espèce de contradiction parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la nature. Si on ne sait plus ce que c'est que la nature, on ne peut pas essayer de préciser la différence et la place de la différence dans le corps. Homme et femme, et en même temps l'unité. La diversité vient au moment de la finalité de la fécondité. Et là, je crois que pratiquement, on vit actuellement comme des gens qui ne réfléchissent plus. C'est comme une couvée animale entre poussin, poule et coq. La nature, elle est comme ça. Quand vous voyez le petit poussin, ben oui. Petit poussin. Puis petit à petit, ça pose énormément de questions, ça. Mais je crois que si on doit bien noter que ce n'est pas du côté de l'âme que la diversité se prend. Il n'y a pas une âme masculine et une âme féminine. Il y a l'âme humaine. L'âme humaine se diversifie par le point de vue de l'exercice, dans le développement de l'exercice. Alors, dans le développement de l'exercice, il y a évidemment un développement différent d'un côté comme de l'autre. Mais ce n'est pas la même chose, vous voyez. Autrement dit, on arrive à cette question-là, y a-t-il au point de vue personne, un développement spécial de la personne, de l'homme et de la femme. Est-ce qu'il y a une complémentarité dans la personne ? Est-ce que la personne féminine et la personne masculine sont-elles différentes ? Alors, là, on peut tout de suite répondre, oui, c'est différent. C'est évident qu'il y a des qualités qui se développent chez la femme et des qualités différentes qui se développent chez l'homme. Et l'homme qui ne veut pas reconnaître ça et qui est élevé uniquement dans un milieu féminin, on verra ça tout de suite, qu'il y a en lui quelque chose de masculin qui n'est pas assez développé. Et la femme, exactement. La jeune fille qui vit uniquement, qui a vécu uniquement avec des garçons et des hommes, il y a quelque chose en elle qui est masculin et qui ne l'est pas entièrement. C'est très curieux, ça. Et vous voyez, ça, ça vient de l'éducation. C'est quelque chose acquise, qui se sont ajoutés. Parce que la personne, elle se forme. Alors, évidemment, je crois qu'il y a deux types de personnes. Une personne féminine, une personne masculine. Oui. Et ça provient, le point de vue foncier, c'est dans la nature.